Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, un patrimoine radiophonique.
Né en 1946, dans ce qui n'était pas encore la République démocratique du Congo, Ray Lema est depuis une quarantaine d'années et une vingtaine d'albums l'une des grandes figures de la musique qui nous vient d'Afrique. Musicien inclassable, voyageur, ouvert à tous les sons du monde et adossé à une connaissance profonde de sa propre culture, il multiplie les rencontres avec les artistes de tous horizons et de toutes disciplines. Qu'il s'agisse des voix bulgares ou des Turgnawa d'Essaouira, de l'orchestre de chambre de Sundsvall, de l'orchestre symphonique de Wuhan en Chine ou de celui de Salvador de Bahia. Du chanteur brésilien Chico César ou de l'orchestre jazz sinfonica de São Paulo, qu'il signe des musiques de films ou travaille pour le théâtre, comme il le fait régulièrement avec le metteur en scène Jean-Louis Martinelli. Sur France Culture, en 1993, Jacques Erwan consacrait un numéro d'opus à Ray Lema.
Opus.
Ça va ?
Ray Lema.
Bonjour.
Des musiques comme des eaux mêlées.
Bonjour Ray.
Comment ça va ?
Ça va bien.
Waouh. Bien longtemps.
Alors, il paraît que il y a un piano.
Je vois que l'affaire a été divulguée. Maintenant, jusqu'à présent, j'ai travaillé sur ces histoires électriques. Alors, il faut passer à la vraie chose. Ouais, ne plus se laisser distraire par ça. Là, vraiment, j'ai fait maintenant de la composition, quoi. Écriture musicale pure.
Avec l'ordinateur.
Ouais. Mais juste comme une machine à écrire. Hein. C'est pas pour faire des séquences. Les séquences, je les faisais sur l'Atari. Là, c'est parce que sur le Mac, il y a des logiciels qui te permettent d'écrire la musique comme on fait le traitement de texte. Vraiment, tu es sur papier, quoi. À ce moment, on commence à me demander des choses assez bizarres du style écrire des opéras, des histoires comme ça. Donc, il me fallait un logiciel où je pouvais écrire vraiment. Ouais.
Ray Lema naît au Zaïre, voici 47 ans. Le Zaïre, quatre fois la superficie de la France, plus de 200 ethnies et une variété et une richesse musicale peu communes. Doté d'une formation classique, il entreprend ensuite une carrière de musicien professionnel dans les boîtes de Kinshasa, capitale de la rumba africaine. En 1972, Ray parcourt en solitaire son pays pour étudier la musique traditionnelle. Puis, il est engagé par le ministère de la Culture comme directeur musical du Ballet National du Zaïre, poste qu'il occupe jusqu'en 1976. Il renonce ensuite à monter un opéra traditionnel, puis accompagne Franco Luambo et diverses vedettes zaïroises. Il part ensuite aux États-Unis avec l'ambition d'apporter un souffle nouveau à la musique africaine qui s'enlise dans les cabarets traditionnels. En 1983, il débarque à Paris, ville dont le cosmopolitisme nourrit son inspiration. Musicien nomade et éclectique, Ray poursuit ses pérégrinations. Blagoevgrad, Bulgarie, succède à Kinshasa, Washington DC et Paris, en attendant Tokyo. Entre-temps, Ray a collaboré entre autres avec Stuart Copeland, batteur du groupe Police en 1984 et 1985, ainsi qu'avec le pianiste de jazz Joachim Kuhn en 1992. Alchimiste, Relema métisse les influences et les sons avec gourmandise et ce faisant, construit la musique de demain. Fait chevalier des arts et des lettres par Jack Lang, il est particulièrement apprécié par les intellectuels et créateurs africains. Relema chante le plus souvent en lingala, en kikongo ou en mongo, et parfois en anglais ou en français, langue dans laquelle il s'exprime ici.
Les premiers sons dont je me souvienne, c'est les rondes sur le dos de ma mère. C'est bizarre, ça je me rappelle. Parce que vous savez que chez nous, les mamans ne lâchent jamais leurs enfants, hein, jusqu'à un certain âge du moins. Et on est toujours sur le dos. Et je me rappelle dans les fêtes des funérailles, quand maman dansait, je me rappelle toujours cette bousculade comme ça. Hein. Sur le dos de maman, et c'est bien parce qu'en même temps, c'est contre un corps humain, c'est très sensuel. Et puis, je me rappelle confusément ces rondes. Voilà, ça, c'est vraiment mes premiers souvenirs musicaux. Les premières musiques, je me rappelle, vers l'âge de 5 ans, on m'a offert une... vous voyez, les vieux phonographes, les vieilles machines avec manivelle.
78 tours.
Voilà. Ouais. Et j'avais une pile de 78 tours. Et c'est seulement bien après que je me suis rendu compte qu'on m'avait offert des 78 tours qui étaient de la musique latino-américaine. C'était des vieux disques latino-américains. Salsa, mais les débuts, tous les débuts de la salsa. Et voilà, ça c'est les premiers disques que j'ai vus de ma vie. C'est vers l'âge de 5 ans qu'on m'avait offert cet appareil-là. Vraiment, tous les Aïrois de ma génération, ils sont nés dans ce groove latino-américain. C'était tout le temps présent.
Kinshasa, c'est toujours une capitale musicale, à votre avis?
Non, je pense pas.
Ça l'a été?
Ça l'a été, oui, pendant très longtemps.
À l'époque de la rumba zaïroise?
Jusqu'aujourd'hui, vous savez que la rumba zaïroise, elle est toujours, quand vous descendez en Afrique, c'est toujours prédominant. Partout où vous passez, vous entendez cette rumba zaïroise jusqu'aujourd'hui. Mais c'est une rumba zaïroise de Paris maintenant.
Et vous, ça vous agace terriblement, cette histoire de rumba zaïroise, n'est-ce pas?
C'est pas vraiment que ça m'agace, mais je trouve que c'est une image dans laquelle nous sommes. C'est un peu comme un vieux disque qui continue de tourner sur le même sillon. Parce que la réalité de l'Afrique a changé. De cette Afrique qui était palmier, soleil, grande banane.
Hein. Dans l'imaginaire.
Voilà, dans l'imaginaire. Aujourd'hui, l'Afrique, quand vous descendez là-bas, c'est quand même le sida, c'est quand même la pauvreté.
La famine.
C'est la famine.
La corruption.
Et, voilà. Et tout ça, c'est un peu comme le Brésil. Vous savez, le Brésil, quand on vit ici à Paris, on reçoit la samba brésilienne, on voit toutes ces plumes et on se dit « Waouh !» Et puis on arrive là-bas, ah non, c'est les escadrons de mort aussi.
Vous êtes allé au Brésil?
Je suis allé au Brésil. Et c'est les favelas, et vous voyez ces enfants qui sont durs, avec des yeux durs, comme ça, c'est effrayant.
Vous avez pratiqué pourtant la rumba zaïroise?
J'ai pratiqué la rumba zaïroise, je connais bien la rumba zaïroise. Mais j'aimerais bien qu'à côté de la rumba zaïroise, qui est un bon lénifiant, hein, parce que la musique permet quand même de passer au travers de certaines duretés de la vie, il faut que la marche de l'art africain reflète aussi la réalité au quotidien. Qu'on ait d'autres formes musicales qui se développent, qui puissent mieux conscientiser le peuple. Je pense que c'est important, comme ça on aura tout.
Va parler ma terre et à Katanga, va y aller là-bas. to yo kanae Malinga kaza se la namboka Bami sa la miso na namboka Ba parle ma terre ya katanga Bayele la po to yo kanae Malinga kaza se la namboka Bami sa la miso na namboka Yemba sa mele gemba ba berta Lelo yo po yo kanamalam Bulundu sa vena tisala Lelo yo Bongo la bitema Ami si jaba na muteba Loko la boye Boyo kana malam
Très tôt, je crois que c'est à 7 ans, à l'école primaire, je suis tombé amoureux du rituel catholique. Et j'étais serveur de messe. Il y a cette chose en moi, je ne sais pas comment l'appeler, si c'est la foi, mais j'ai toujours été très, très attiré par la recherche de mon Dieu, pourrais-je dire. Et je suis tombé là-dedans et je jouissais terriblement des musiques de messe. J'avais une très belle voix, je chantais à la messe, je servais les messes. Et du coup, je suis allé au séminaire parce que je voulais devenir prêtre. Et c'est là que j'ai débouché sur le piano et l'orgue. En fait, je n'ai pas choisi du tout. Avant ça, je chantais, mais j'avais jamais pensé à la musique comme travail. Moi, chez nous, la musique, c'est la vie courante, quoi. Donc, j'y avais jamais pensé sérieusement. C'est seulement en allant au séminaire. Je me rappelle, on nous a fait des tests dès les premiers jours. À tous les enfants, pareil. On nous mettait une guitare entre les mains. On nous donnait le rudiment de 3 accords et on nous disait, tiens, invente quelque chose avec ces 3 accords. Ou bien on te mettait à l'orgue, on te disait, invente quelque chose. Et on m'a essayé à la guitare, à l'accordéon et à l'orgue. Et chaque fois, je partais dans un délire. On m'a dit, mais ce garçon, il est très doué. Et puis, on m'a pratiquement cloué à ça, quoi. On m'a pas demandé mon avis. On m'a dit, tiens, toi, pour ta génération, désormais, tu es titulaire de l'orgue. Donc, tu dois apprendre à accompagner les messes. J'ai commencé par l'orgue. Et pour me dispenser d'autres activités que faisaient les autres enfants, puisqu'ils avaient l'impression que j'étais destiné à la musique, on m'a bombardé bibliothécaire. Je me suis dit, mon Dieu, ça c'est une responsabilité terrible. Il faudrait que je puisse conseiller les gens qui viennent prendre les livres dans la bibliothèque. Alors j'ai tout lu dans la bibliothèque du séminaire. En fait, je connaissais tellement les messes après un moment que j'avais toujours un livre de la bibliothèque devant moi. Et moi, j'étais en train d'accompagner les messes en lisant mes livres de la bibliothèque. Ça allait des livres de la philosophie de Kant à Bigglesworth ou bien le dernier des Mohicans. Le piano, c'est venu un peu plus tard. Donc à 11 ans, c'était l'orgue et à 12 ans, c'était le piano. Et en fait, c'est un abbé belge qui s'est dit, au lieu de laisser ce garçon jouer tout le temps des pièces religieuses, il faut lui payer un piano pour qu'il fasse de la musique classique. Il a fait venir un piano de Bruxelles. Je me suis retrouvé dans une pièce avec ce piano et des piles de partitions. Il voulait entendre jouer du piano À tout moment, à tout moment. Donc je devais tout le temps faire semblant de jouer. Mais je continuais toujours de lire les livres de la bibliothèque, en fait.
Et les études, peut-être aussi, non?
Je dois dire que j'ai jamais eu de problème avec les études. Jamais eu de problème. Il faut croire que j'étais assez futé pour deviner ce que cherchaient mes professeurs. Mais j'ai toujours été parmi les trois premiers. Bon, je n'étudiais pas particulièrement, quoi. Je lisais les livres de la bibliothèque. Dans les concerts profanes, vous avez le public de face. Et c'est une sensation très particulière. Mais c'est encore plus particulier dans les messes, parce que dans les grandes messes, j'ai fait des grandes messes d'ordination, des choses de ce style. Vous êtes dans une grande église et vous voyez le public de dos parce qu'on est à l'arrière. Et d'après que vous êtes inspiré ce jour-là, vous sentez, vous voyez les têtes, tout le monde qui se courbe comme ça. Et quand ce jour-là, vous n'êtes pas en forme, on le sent par un flottement. Vous sentez les têtes qui se relèvent, les têtes qui bougent, les têtes dedans. Et c'est une sensation, très très magique ça.
Le premier concert profane.
C'était à 13 ans. C'était la sonate au clair de lune de Beethoven. C'est ma première pièce profane en public. Et puis c'était la première fois que je mettais un pantalon long. Ce qui reste de la sonate au clair de lune. Je me remets sérieusement au piano. J'ai une partition, je me suis procuré déjà une partition de la sonate au clair de lune. Parce que j'aimerais bien saloper la sonate au clair de lune, la rejouer, mais avec toutes les rythmiques barbares que j'ai apprises entre-temps, j'aimerais bien pouvoir réaborder cette première pièce qui a été la première pièce de ma vie, en oubliant complètement leurs annotations à eux, en y mettant mes annotations à moi rythmiques.
Ça veut dire africaniser la sonate au clair de lune ?
Oui. Ça ne veut pas dire y mettre des tambours. Non, c'est dans l'interprétation. J'aimerais bien pouvoir essayer de saloper un peu cette pièce-là parce que c'est...
Pourquoi saloper ?
Parce que je sais, j'entends déjà les puristes qui vont me tomber dessus à bras raccourcis. Ils se comportent beaucoup comme une secte. Ils ne laissent pas beaucoup la porte ouverte à la liberté de l'interprète. On a laissé des gens comme Gould prendre quelques petites libertés, mais d'habitude, ils sont d'une intransigeance terrible dans cet univers. Au point que je me rappelle, j'ai été dernièrement chez un musicien classique. Il a une discothèque incroyable et il a tout en 3 à 5 versions. Et il connaît toutes les interprétations et il me disait, quand il va à un concert, il voit toutes les erreurs de l'interprète. Moi, j'ai failli lui dire, mais c'est peut-être ces erreurs-là qui font justement l'interprète et qui font le génie de l'interprète. Vous vous êtes jamais dit ça, mais on n'ose pas, venant d'un Africain. Commencé vraiment dans la musique classique et ensuite ayant eu à rejoindre quand même mes musiques traditionnelles puisque j'ai été chef de musique du ballet national, je me suis rendu compte que nous cherchons deux choses qui sont complètement différentes. Dans les musiques africaines, nous n'avons pas eu assez de notes. Vous savez, quand même, toutes les harmonies classiques se sont composées pratiquement sur le piano. C'est l'instrument harmonique par excellence où on a inventé toutes les harmonies. Et c'est Parce que ça a 88 notes. Chez nous, on n'a aucun instrument qui a autant de notes. Donc, toute la recherche s'est orientée plutôt vers une trame rythmique. C'est la trame rythmique où nous avons mis toute notre recherche. Et ça a débouché sur un jeu qui est presque un jeu social. C'est que l'occidental, à partir d'une note comme ça, brusquement, l'occidental, à cause d'un certain polissage, vous savez, les luthiers ici, c'est un triple, les mecs, ils sont allés loin dans la recherche de la note, de la pureté de la note. Ils ont découvert qu'il y a des harmoniques. Dans chaque note, il y a des harmoniques qui s'étagent. Et en fait, c'est sur ces harmoniques qu'on a monté les claviers d'un piano, par exemple. On a fait la division des notes. Et c'est ça, pour moi, la recherche de l'occidental. C'est cette verticalité qu'il a découverte à partir de chaque note. Et toute sa recherche s'est tournée sur un plan harmonique qui est un truc qui est vertical, alors que chez nous, c'est une recherche qui est plus horizontale, parce que vraiment, vous savez que dans un village, le premier morceau de bois sur lequel vous tombez, il suffit que ça sonne, vous êtes déjà admis dans la ronde, quoi. Ce n'est pas la note, la pureté de la note qui a été notre recherche. Et je pense que c'est si vous allez loin assez dans ces deux démarches, vous atteignez les musiques africaines d'un côté et les musiques occidentales de l'autre. C'est comme ça que personnellement je vis ça.
Alors la démarche de Relema, ce serait donc de réconcilier, si je comprends bien, la verticalité et l'horizontalité, l'harmonique et le rythme.
Je ne pense pas que ce soit seulement la démarche de Relema. Vous savez, actuellement, c'est la démarche de la modernité. Ouais, autant quand je suis venu d'Afrique, quand je suis arrivé ici, moi, je me disais, oh là là, je vais arriver au pays des Bach et des Beethoven et des Mozart. Là-bas, tout le monde doit fourmiller dans la tête ces notes. Et puis, je me suis rendu compte que les enfants ici, quand vous leur mettez du Beethoven, ils s'endorment. Donc, ils ne sont plus exactement dans Mozart et Beethoven. Ils sont en train de faire une démarche vers l'intégration de l'horizontale. Ils ont ajouté des batteries. Ils ont envie de joindre leur verticalité à une horizontalité. Et chez nous également, vous savez que les jeunes, si vous leur servez des tambours à la tour de bras, ils flippent. Hein. Aujourd'hui, ils veulent du synthé, ils veulent une guitare. Et aussi, ils font un chemin vers une verticalité, parce que l'horizontalité, quand on est tout le temps là dans une roue rythmique qui tourne, ce n'est plus suffisant pour le moderne. Donc je pense que c'est simplement une démarche de la modernité que de concilier ces deux choses-là. C'est ces deux choses-là qui font et qui feront de plus en plus la musique moderne.
Africa, mon kiri, mon bimba. de l'Afrique qu'elle l'accompagne. Et la Angolaise de l'Afrique qu'elle l'accompagne. Et la Congolaise de l'Afrique qu'elle l'accompagne. Nakiri Mobembo Simana Ngai Bazaka. Okanisa Tichéri Nako. Mabini Africa,
Africa.
Il la taille roi de l'Afrique qu'elle l'accompagne. N'accueille mon bembo si man n'angai bandaka.
Africa.
Organise ta chérie n'a pas donné l'aïe. Il la calé Nico Roger Roger où il est déchoué. La Côte d'Ivoire peine à camper.
Mais cette démarche d'aller vers l'autre ne postule-t-elle pas que d'abord on connaisse parfaitement sa propre culture et sa propre identité ?
C'est bien vrai, oui. C'est vrai qu'il faut avoir fait un minimum de travail sur soi-même, sur sa base à soi, avant de s'approcher de celle de l'autre.
Relema, de la même manière qu'on pouvait se demander tout à l'heure ce qui restait de la sonate au clair de lune, que reste-t-il aujourd'hui de ce travail de collectage à travers tout le Zaïre ?
Pour la collectivité, hélas, vous savez, le Zaïre, ce qu'il est en ce moment, j'ai essayé de récupérer il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans, j'ai essayé de retrouver les archives du travail de collectage que j'avais fait. Il ne reste plus rien. Là-bas, les archives... On s'en fout, le premier qui passe après, il recycle tout, et puis basta. Et puis j'ai remarqué, vous savez, en Afrique, le travail sur la culture n'a pas l'air d'être une préoccupation à ce moment. Ils ont l'impression que le politique et l'économique sont urgents, et au détriment de la culture. Donc, je ne sais pas du tout, je n'ai pas l'impression que ça a avancé d'un pas là-bas. Mais personnellement, pour moi, depuis ce travail, il y a un cheminement qui a continué de se faire, surtout en vivant en France où les cultures africaines se rejoignent. La raison pour laquelle j'ai demandé expressément le piano, par exemple, à mon staff de travail, c'est parce que je viens de rencontrer un joueur de kora. Et brusquement, il y a un déclic que je cherchais depuis des années. Comment récupérer le piano et le tirer vers l'Afrique? Ça s'est fait comme ça, au contact de ce joueur de kora. Et vous savez, ces gens qui font les musiques traditionnelles en Afrique, c'est des maîtres dans leur musique. Donc il faut les approcher en étant maître de quelque chose aussi, nous, musiciens modernes. Et ce n'est pas évident. Il fallait que je trouve... l'idiome juste. Et là, j'ai l'impression que je commence à trouver la petite chose.
Dans le travail de collectage, on collecte quoi ? Des rythmes ?
Je collectais tout, images et musique. Ça a été fait entre les deux années où j'étais au ballet, c'était 74 et 75, dans tout le pays. Parce qu'il fallait réunir... du personnel pour le ballet national zaïrois, il fallait que ça soit national. Donc j'ai fait tout le Zaïre.
Ça fait combien d'ethnies ?
Plus de 200. Alors on est plus de 200 ethnies au Zaïre.
Donc plus de 200 musiques ?
Oui. J'ai dit oui avec hésitation, parce que j'ai découvert que c'est juste des accents qui changent. Parce que chez nous, les métriques ne sont pas métriques mathématiques, mais c'est des métriques linguistiques. les mecs ne comptent pas en termes de 1, 2, 3, 4, 1, 2, non, non. C'est des phrases de leur langue qu'ils jouent au tambour, et c'est ça qui forme les métriques. Donc, en fait, c'est juste des accents qui bougent parfois, et puis il a l'impression que, waouh, moi je suis complètement différent de l'autre. Mais en fait, ils ne sont pas si différents, vous savez.
C'est un simple glissement.
Vraiment, c'est des simples glissements.
Cette richesse musicale dont témoigne votre travail de collectage au Zaïre, elle demeure aujourd'hui ?
Je crois que ça s'est beaucoup appauvri. Les plus grands musiciens que j'ai croisés déjà en 74 et 75, c'était des très vieux. Ce qui tenait vraiment les musiques traditionnelles, c'était déjà des gens qui étaient très âgés. Et ensuite, il y a un phénomène qui s'est fait à cause de la politique du gouvernement. Vous savez qu'il y avait ce qu'on appelait l'animation politique au Zaïre. Ça veut dire que tout le monde devait chanter Mobutu. Bon, les chanteurs traditionnels, ils ont transformé petit à petit leur musique pour l'adapter au groove que voulait le gouvernement. Il fallait que chaque ethnie montre plus d'ardeur que l'autre dans les louanges de Mobutu. Tout s'est dilué un peu.
Et vous avez échappé à cette célébration de M. Mobutu ?
J'y ai échappé, mais pas sans fracas. Et quand j'ai voulu protester un peu, au moment où, après le ballet national, on m'avait demandé un opéra national, j'ai refusé. J'ai refusé. Suite à ça, j'avais eu des sanctions. Je ne pouvais pas jouer au Zaïre. On m'a repris tout ce que j'avais comme instrument de musique. Mais vous savez, avec l'excès des ailes des militaires, ils ont pris même les fauteuils, quoi. Tout est parti. Tout est parti. On m'a laissé seulement les murs. Et puis, c'est pendant ces sanctions que j'ai été invité aux États-Unis.
Quelle année ?
C'est en 79. Donc, vous voyez pourquoi je n'étais pas si pressé de rentrer au Zaïre, quoi. Je suis resté 2 ans et demi aux États-Unis. Le fruit de ce séjour, c'est que je suis ici.
Musicalement, ça a été un apprentissage, une découverte?
Ah oui. Ah oui, ça c'était très fort. Vous savez, au Zaïre, quand j'ai quitté le Zaïre, nous n'avions pas encore de studio multipiste. Donc je me rappelais des enregistrements où on faisait ça, les meilleurs studios, c'était les studios de la radio. On vous met dans le studio et vous devez jouer. Dès qu'il y a une erreur, vous arrêtez tout, il faut reprendre tout. Et c'est aux États-Unis, cette année-là, que j'ai découvert, j'ai vu pour la première fois un studio multipiste. Et c'était assez fort. Hein. Et en plus, quand je suis passé à New Orleans, j'ai rencontré Alan Toussaint. Tous les musiciens noirs venaient à nos spectacles. Et Alan Toussaint était au spectacle. Et après le spectacle, il est venu me demander, il me dit, mais est-ce que je peux avoir un disque de toi? Je lui ai dit, j'ai pas de disque. Il m'a dit, non, c'est pas vrai. Je lui ai dit, mais oui, j'ai pas de disque. Il m'a dit, écoute, et tu veux qu'on fasse un deal? J'ai dit, dis-moi. Il dit, moi, j'ai un studio. Si tu viens chez moi, tu peux jouer. Toi, tu pars avec ta bande, enregistrée professionnellement. Et moi, au moins, je garde cette musique et je te promets que je ne l'utiliserai jamais commercialement. Mais j'ai besoin de ça. J'ai dit, ok, bon, on fait le deal. Et on est entré en studio à New Orleans pendant la tournée, donc. Et on a passé toute la nuit en studio à jouer tout ce que j'avais en tête. Et puis il a enregistré ça. Et puis il m'a remis la bande et lui, il a gardé une copie.
Qu'est devenue cette bande?
Certains extraits, c'est devenu le premier disque qui est sorti ici chez Celluloid qui s'appelait Côté Jazz.
États-Unis, si je comprends bien, c'est la découverte de technologies d'enregistrement, de techniques d'enregistrement.
Oui. C'est essentiellement ça, parce qu'en plus, il y a une expérience qui m'est arrivée au moment où je suis arrivé à Washington, D.C. J'étais, après cette expérience du studio de de New Orleans, vraiment, j'étais là avec le son. Je me disais, c'est pas possible, c'est tellement beau ce son. Et je courais comme ça de studio en studio. Chaque fois que j'entendais parler d'un studio, je courais vite pour aller voir. Et un jour, je suis allé dans un studio qui s'appelait No Evil. Et souvent, les ingénieurs américains, ils ont une librairie de ce qu'ils considèrent comme les sons du monde, juste pour comparer des mix. Et puis, le type, il a sorti un disque de Franco. Il a mis le volume à fond. J'étais très flatté, j'écoutais, c'est le son auquel j'ai grandi, quoi. Je dis, ah, voilà, c'est fantastique. Et puis, ensuite, il me dit, bon, écoute bien. Et ensuite, il me dit, maintenant, écoute un mix que je viens de faire, qui est un mix typique américain. Il a mis un mix à lui. Ah là, j'ai reçu la grosse baffe, quoi. Là, je dis, ouais, tu sentais toute la maison qui vibrait, mais alors, sans que ça soit criard nulle part, sans qu'il y ait trop de grave, sans que tout te rentre en même temps dans la gueule, quoi. Et ça, c'était l'expérience qu'il fallait me faire. Après ça, je me suis dit, terminus. Là, maintenant, il faut que je pige. C'est quoi l'astuce-là des fréquences? Voilà, c'est ça vraiment la grosse expérience des États-Unis. C'est depuis lors que j'ai toujours tout investi dans ce que vous voyez ici, parce que...
Ici, donc, dans le studio, sous la maison de Réléma, en banlieue parisienne.
Parce que je me suis rendu compte que la musique, c'est une chose. Mais la musique, ce n'est que des fréquences quand ça arrive au niveau du haut-parleur. Ce n'est que des fréquences. Donc, ça a beau swinguer comme une baleine et tototon, mais il faut un minimum de connaissances. Ça, c'est ma passion. Et c'est seulement maintenant que je commence à maîtriser ça.
Au bout de 10 ans de séjour en France.
Oui. La France, pour moi, ça a été l'apprentissage de mon identité africaine. Avant, j'étais Zaïrois. Maintenant, je me sens vraiment africain. J'ai touché tellement de musiciens africains que j'ai pu me mettre à ma place en tant que Zaïrois, savoir où. Qu'est-ce qui fait que je suis Zaïrois à côté d'un Nigérian, à côté d'un Ghanéen, à côté d'un Sénégalais? Oh mon Dieu, ça c'est la Sibie. Ouais. Mais je disais donc, à côté de cette rencontre avec les autres Africains, Paris, ça m'a permis aussi de polir cette rencontre entre la verticalité dont on parlait et l'horizontalité, je peux l'activer directement sur un instrument. C'est-à-dire, ce n'est plus seulement une théorie confuse dans ma tête, mais je sais la mettre en pratique directement.
Et pourquoi Paris ? Ça aurait pu être Bruxelles pour un Zaïrois.
Non, Bruxelles, c'est... Je suis allé là-bas, en fait, c'est là-bas, c'est les Belges et les Zaïrois. C'est pas vraiment l'Afrique. Paris, c'est une rencontre de l'Afrique. Il y a des capitales de la musique dans le monde. Quand vous venez ici en Europe, je pense que c'est Paris. Et Paris, c'est une place de marché. Non seulement, je dirais, pour les francophones, mais pour l'Europe. Au niveau de la culture, je pense quand même que Paris a un parfum culturel et une volonté culturelle qui est bien, bien évidente, quoi. Du dehors, quand on parle de Paris, tout le monde pense culture. C'est la ville culturelle, ici en Europe. Je crois que Paris avait gagné ses lettres de noblesse en tant que capitale culturelle avec la littérature. Mais bon, je dois dire que je suis encore un peu frustré sur le plan musical à Paris, parce que pendant que le monde entier vient à Paris chercher cette rencontre musicale que l'étranger sent, les Français, ils ont l'air d'être vraiment les derniers à s'en rendre compte. En France, il y a une sorte de tolérance mutuelle qui fait que les cultures se rencontrent d'une autre manière, j'ai l'impression. Depuis que je me suis proclamé producteur ici, je reçois des démos de jeunes groupes. Parfois, c'est hallucinant parce que dans les banlieues, vous voyez des enfants. Il y a des groupes qui sont... Il y en a un qui est togolais, il y a un vietnamien, il y a un beurre, et puis un anglais perdu à Paris. Et tous les mecs sont copains. Et puis, il n'y a personne qui tire... De son côté, moi je trouve que c'est particulier à la France, ça. Et ensuite, vu que la France n'a jamais été un pays vraiment musical, la France a absorbé tout. C'est-à-dire, il y a des grands jazzmen français, ils connaissent le jazz jusqu'au bout des doigts. Tandis que l'inverse n'est pas vrai, l'Américain ne connaît rien de la France. Et ce phénomène d'absorption de tout a fait qu'il y a un climat ici de grande université. D'université un peu universelle, où on peut apprendre des choses sans tension. Et c'est formidable comme ambiance.
Rélema, ce que vous dites là tendrait à prouver que le racisme dans ce pays est une invention des politiques.
Il y a toujours du racisme, parce que c'est, le racisme, d'après moi, c'est souvent une peur qui naît de l'ignorance. Quand on ignore qui est l'autre, on a peur. On ne sait même pas pourquoi on a peur. Et c'est souvent dans les classes les plus pauvres qu'on trouve le racisme le plus viscéral.
Et de vos ethnies, de toutes vos rancœurs avalées au fil des âges, de vos frontières bâclées et de vos rivalités, si meurtrières qu'on a envie d'en pleurer. Au-delà de nos famines, de nos sécheresses, de nos pleurs, de nos rires tissés d'histoire, au-delà des castes momifiées dans la poussière, au-delà des dictatures ingénument bestiales, au-delà des malédictions mal vécues, au-delà des grandeurs mal gérées, au-delà des noirceurs et des blancheurs, au-delà des couronnés et des écrasés.
Lord,
Quelles ont été, au cours de ces 10 dernières années passées à Paris, des étapes essentielles?
Ça reflète des périodes très précises. Pour moi, mon séjour à Paris, il y a 3 périodes, et je me sens dans la 3e période à ce moment, forcément. Mais la première période, c'est quand je suis arrivé à Paris, j'étais encore très très naïf, j'étais juste un musicien qui voulait se présenter. La première période, c'était côté jazz. Et puis Kinshasa, Washington DC, Paris. Et je mets aussi Médecine un peu, bien que ça ait été un disque produit par Martin Messonnier. Ça, je mets ça dans la première période. Ensuite, il y a eu la période des grosses signatures, où brusquement nous avons été pris en main par des grosses maisons, avec des producteurs. La période Island, où c'était Nangadef et Gaïa, où il y avait des moyens, mais il y avait aussi une pression productrice très très forte.
À laquelle l'artiste résiste, c'est ça?
Essaye de résister.
À laquelle l'artiste essaye de résister, mais donc n'y parvient pas toujours.
Il n'y parvient pas toujours.
Ce qui est dommageable.
Bon, ouais, je le regrette un peu.
Et la troisième période?
Et la troisième période qui a commencé pour moi avec l'album avec le professeur Stefanov et les voix bulgares, où brusquement, on nous laisse plus de liberté. J'ai découvert les Bulgares aux États-Unis. Et c'est ainsi que m'est arrivée cette cassette des Bulgares. Et pendant tout le temps que j'étais aux États-Unis, j'écoutais ces femmes. Et ce qui m'avait frappé, c'est que quand, moi, Africain, je pense au chant occidental, tout de suite, je vois la technique vocale, qui est cette colonne d'air, les chanteurs lyriques. Et les Bulgares, c'est pas du tout ça. Les Bulgares utilisent leur timbre plutôt comme les Africains, un timbre très dur et très piquant. C'est ce trait-là qui m'avait fait remarquer et qui avait fait remarquer les Bulgares chez les Noirs américains. Ils avaient dit, mais dis donc, c'est bizarre ces gens, ils chantent avec le timbre comme les Blacks. Et je suis venu avec cette cassette en France. Il y a Jean-Luc Foulquier qui m'a dit, mais bon, écoute, tu dois jouer aux Francofolies. Il y a un groupe bulgare qui était le Cœur Trakia. On s'est croisé un jour avant les Francofolies. On a vite, vite monté quelque chose ensemble. Et puis, on est monté sur scène aux Francofolies. Et ça, c'était tellement, tellement beau. Et puis, voilà, au premier Francofolie de Bulgarie, Foulquier m'a traîné là-bas. Il m'a présenté au professeur Stefanov. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti cette affaire-là. Un disque né de ça.
Yeah.
Continuer la série des pérégrinations de Relema, Kinshasa, les États-Unis, la France, la Bulgarie, et après.
Je crois que ça va être le Japon, parce que j'ai traînaillé mes Bulgares au Japon, et on a reçu un accueil qui était délirant. C'est extraordinaire ce que les Japonais étaient touchés par cette expérience zaïro-bulgare. Alors du coup, ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu un mélange aussi osé, aussi homogène. Et ils m'ont proposé 4 chanteuses japonaises. Ils aimeraient que je fasse une sorte de gros opéra où je pourrais mélanger le groupe qui est de Côte d'Ivoire, les voix bulgares, mes musiciens parisiens et les japonaises. Je me sens brusquement embarrassé, je me dis mais... Après toutes ces expériences, le prochain disque que je dois faire, comment il va être? Et puis, il faut que je me recentre.
Pour tourner au village, en fait.
Oui, pour moi, mon village, c'est le piano. Donc, je reprends le piano. Et je pense qu'autour du piano, il y a moyen de faire tourner toutes ces expériences sans qu'elles dérapent.
Relema, parmi vos pérégrinations musicales, il y en a une qui est relativement récente, qui est une rencontre avec Joachim Kuhn.
Je voulais rencontrer un grand blanc.
Alors vous avez choisi un Allemand.
Non, vraiment, je voulais rencontrer un grand blanc. Et quand j'ai vu ce mec, parce que d'abord je l'ai vu sur scène, il est tellement à la limite de la bestialité, ce type. Quand il rentre sur son piano, c'est assez hallucinant. Je me suis dit tiens, je me frotterai bien à ce type et je vais essayer maintenant, moi, de le tirer vers l'Afrique. Parce qu'en fait, c'était ça, à l'origine, ce que j'avais derrière le crâne. Mais malheureusement, je pense que c'est lui qui a réussi à me tirer ailleurs. Oui, lui, il a réussi à me tirer ailleurs parce que c'était un grand virtuose. Et les virtuoses ont beaucoup de tics. Ils ont beaucoup de tics, surtout les instrumentistes, pianistes. Donc je ne suis pas parvenu à le retenir. Chaque fois qu'il se pose sur le piano, avant de le retenir, il est déjà parti. Et comme moi, je ne suis pas virtuose au piano, il a réussi à me tirer. Je suis content de cette expérience parce que c'est vraiment un grand bonhomme. Mais en même temps, je suis un peu miné parce que j'ai présumé de mes forces. Ouais, là, j'ai présumé de mes forces et je me suis laissé entraîner par un courant. Je n'avais pas prévu que le courant était aussi fort que ça. Donc, le disque, ce disque-là, à chaque fois que je l'écoute, je suis très mal à l'aise. Je me dis chaque fois, comment je n'ai pas réussi à redresser la barre assez pour que je tire de mon côté. Et voilà, ça, c'est une autre raison qui m'a poussé à tout tourner autour du piano, parce que au moins à la fin du disque, je me suis rendu compte combien le piano africain sera différent du jazz. Vraiment, je pense que c'est important que je vous donne la sensibilité de ce que moi je sens être le piano africain et qui est vraiment différent du jazz. Parce que chez nous, la musique, ce n'est pas une histoire de virtuosité comme ça. Vraiment, il y a très peu de virtuosité pure en Afrique. Et on est toujours lié à des accompagnateurs qui ne sont pas vraiment des accompagnateurs, c'est des complices, puisque c'est des architectures qui sont très sociales. Il faut tenir compte de l'autre, de la personnalité de l'autre.
Prendre sa place en laissant vivre celle de l'autre.
Voilà. Quand tu marches sur les chaussures de l'autre chez nous, tu sais, dans le monde traditionnel, quand on écoute deux musiciens traditionnels en train de répéter, on entend souvent des phrases du style, brusquement, il y a un qui s'allait, tu dis, mais dis donc, tu ne peux pas t'empêcher de marcher sur mes pieds, toi. Non, ça, c'est fréquent dans le monde traditionnel africain. C'est le genre de remarque qu'on se fait. L'autre s'arrête carrément, il dit, eh oh, marche, reste à ta place. Ne marche pas sur mes souliers à moi. Et ici, il n'y a pas ces limites-là. La force de chacun, bon, ou bien tu te fais manger, ou bien... voilà, là, j'étais pas assez fort.
Pour conclure, Elema, quel est, à votre avis, la spécificité de la musique africaine?
Bien que j'ai dit que la musique africaine, c'est beaucoup sur une certaine horizontalité, les gens ont tendance à croire que les musiques africaines, c'est les percussions. Mais quand on regarde toutes les traditions du monde, il y a des percussions partout. Ce n'est pas la spécificité de l'Africain. Et le rythme africain, c'est, j'ai dit que leur métrique est une métrique linguistique. Donc c'est en fait la vraie spécificité pour moi des musiques africaines, c'est les voix et nos langues. Non, ce n'est pas les percussions. Les percussions, ça c'est la musique vraiment pour la petite ronde. Mais il y a plein de musiques en Afrique où il n'y a aucune percussion, où c'est les voix. Nous sommes une musique du verbe. Je pense que je suis complètement dans une certaine tradition africaine quand je pars avec les voix, si je parviens à les organiser à l'africaine, du moins. Gamlango, Gamlango. Gamlango. Gamlango, Tunga Dinine. Gamlango. Gamlango, Gamlango. Gamlango. Gamlango, Tunga Dinine. Gamlango. Gamlango, Gamlango. Gamlango. Gamlango, Tunga Dinine. Gamlango. Gamlango wa kamlango go Gamlango Gamlango ditunga dinene Gamlango ditunga
Elema, puisque la voix et les mots sont premiers, disiez-vous tout à l'heure, si on vous demandait comme ça brûle pour point de chanter quelque chose, qu'est-ce qui vous viendrait?
Ce qui me viendrait? Je dirais Basanga kote jayo musao Basanga kote jata langi waso Talangi puta yamino O bolila
Oh bolila oh, isane to sunywa. Basanga kote jaya lute ncheke, oh yalute oh, yalute oh, yalute. Basanga kote jata langi waso, oh talangi waso, talangi waso yamino.
C'est quoi?
C'est un thème traditionnel.
Donc lié à l'enfance.
Oui. Basanga, c'est une danse, mais une danse rituelle où il fallait d'abord faire un certain nettoyage et corporel et spirituel. C'est une chanson engagée, c'est une façon d'inviter mes frères à moi. Je pense qu'on arrive à un tournant maintenant, il faut qu'on fasse peau neuve. Il faut qu'on change quelque chose, vraiment. Il faut qu'on change quelque chose, qu'on se nettoie et qu'on prenne la route courageusement.
Opus, Relema, Jacques Erwan, Jean-Marie Porcher, Geneviève Guyenne, Jocelyne Pruvot.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er juillet 1993.